chaud au cœur, on est là. Hein. Tout le monde est là.
On sera là jusqu'au bout. Hein.
On a bien compris.
Jusqu'au bout. On n'en veut pas.
Il faut qu'à un moment, on soit écouté et plus entendu. On a fait une enquête publique. Le commissaire enquêteur a mis un avis défavorable, ce qui n'est le cas que dans 4% des enquêtes publiques. Moi, je vais prendre le risque d'organiser une consultation citoyenne sur ma commune, dimanche prochain, à Cormel, de 9h à 16h. Et en fonction des résultats, je solliciterai les services de l'État et en priorité le préfet pour enfin obtenir un rendez-vous et pouvoir présenter la situation pour ne pas qu'ils viennent dire « on ne savait pas ».
Extrait du documentaire « Monsieur le maire contre la multinationale », documentaire réalisé par Thomas Lafarge. Thomas Lafarge a suivi le combat des habitants de Cormel, commune de 1500 habitants à quelques kilomètres de Soissons, dans l'Aisne. Des habitants opposés à l'implantation d'une unité de production de laine de roche par la multinationale danoise Rockwool. Un combat mené également par Arnaud Svrek, le maire de Cormel, qui a dû s'opposer aux services de l'État, s'opposer aux élus de l'agglomération soissonnaise, mener les recours légaux et entretenir l'espoir auprès des opposants pour les maintenir mobilisés.
Rien n'est fini, aussi bien au niveau juridique qu'au niveau de la rue. C'est la conjugaison des deux qui va faire qu'on va gagner. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Moi, en tant qu'élu, je ne suis pas là pour décider pour mes habitants de mon village. Je suis là pour porter haut et fort leurs attentes et leurs souhaits.
C'est à l'occasion d'un ciné-débat autour du documentaire « Monsieur le maire contre la multinationale » à Douai que j'ai rencontré Thomas Lafarge, le réalisateur, et Arnaud Svrek, maire de Cormel. Arnaud Svrek, bonsoir. Vous êtes maire de Cormel. On va présenter votre commune, avec nous également Thomas Lafarge, bonjour.
Bonsoir.
Journaliste, documentaire, comment...
Un peu des deux. J'ai une formation de journaliste. Je réalise des documentaires et j'ai tendance à dire que je réalise des documentaires avec une éthique journalistique.
Et vous êtes intéressé à ce qui se passe actuellement encore à Cormel. Alors d'abord, on va présenter la commune.
Voilà, mais c'est une commune périphérique de Soissons, située à quelques kilomètres, hein, quelques jets de pierre. Nous sommes 1850 habitants, commune où il fait bon vivre, au demeurant, jusqu'à la création de cette zone d'activité, censée être là pour accueillir des industries et l'arrivée de Rockwool. Voilà.
Alors ça, c'est une industrie qui fabrique de la laine de roche ?
Oui, de la laine de roche, voilà, c'est ça. Principalement de la laine de roche.
C'est vachement bien de fabriquer de la laine de roche le jour où on dit qu'il faut lutter contre les passoires thermiques et qu'on a besoin de rénover l'habitat.
Ah ben oui, comme on dit qu'il faut des aires de grand passage pour les gens du voyage mais que personne ne les veut à côté de chez soi, qu'on veut de l'électricité bon marché mais personne ne veut de centrale, personne ne veut d'éoliennes, personne ne veut de site d'enfouissement des déchets. Donc en fait, c'est une industrie qui peut produire un produit isolant, de piètre qualité, alors pas très cher, mais surtout dans le procédé de fabrication très polluant.
C'est-à-dire que ça impacte directement les habitants de votre commune si cette usine se crée ?
Exactement, puisque selon le rapport de l'enquête publique fournie par l'usine Rockwool, des formaldéhydes, des composés organovolatiles, de l'ammoniac, des perturbateurs endocriniens, donc vraiment des produits... dangereux pour la santé, notamment pour ce qui est des perturbateurs endocriniens. On en est qu'au début des études sur l'impact des perturbateurs endocriniens. Et il faut savoir que ce n'est pas une quantité émise auquel on est exposé, mais une durée d'exposition. Donc c'est-à-dire là, avec toutes ces particules-là qui vont retomber dans un rayon de 0 à 5 km, une exposition 24 heures sur 24, avec tous les travers que cela amène, c'est-à-dire l'autisme, l'infertilité, les fausses couches, tous les 10 chez les enfants et autres.
Qui a eu l'idée de proposer l'installation de cette usine sur votre commune ?
Disons que c'est un projet qui remontait à 2008. 2008, il y avait donc cette zone était créée et il y avait un besoin d'accueillir des industries. Donc on sortait de la phase des années 80 avec une grande désindustrialisation. Hein. On peut parler là de cathédrale industrielle, hein, des entreprises de 1000, 1200 personnes. Qui ont mis la clé sous la porte. Donc il y a eu, dans ces années-là, 8000 personnes de licenciés. Donc il y a eu un vrai traumatisme. Et la zone avait été mise en place justement pour contrebalancer ça et essayer de recréer de l'emploi. Le problème, c'est qu'on a raisonné en disant, voilà, le monde est toujours bipolaire, c'est-à-dire les économies planifiées centralisées d'un côté et les économies libérales de l'autre. Et on pensait, de facto, reconstruire le même modèle avec de nouvelles cathédrales industrielles. Or, le monde avait changé et il fallait se tourner peut-être plus vers le tertiaire, la logistique ou autre, mais ce n'était pas dans l'esprit soissonnais. On était forcément des promoteurs de tout ce qui était industrie lourde.
Alors, avant tout aménagement du territoire, quel qu'il soit, il y a une enquête qui est menée, il y a un expert qui vient sur place, qui regarde le projet, qui écoute, qui jauge. Qu'est-ce qu'il dit cet expert ?
Ah ben l'expert, lui, c'est simple. Lui, c'est le maître mot, c'était l'emploi. On est sur des sites qui ont été des sites de la Première Guerre mondiale. Il y a des sites mérovingiens, une activité agricole depuis l'an 450. Mais là, il fallait être pragmatique et développer cette zone le plus rapidement possible parce que c'était vital pour le bassin soissonnais de créer des emplois. Donc, on pouvait accueillir un certain type d'industrie jusqu'à l'arrivée de Rocoul. Or, en 2008, quand Rocoul arrive, l'installation d'usine est incompatible avec le plan local d'urbanisme. Donc, en 2008, Rocoul fait un petit tour et puis s'en va, c'est-à-dire on a la crise immobilière. Donc, Rocoul, qui avait une option sur le terrain, repart comme ils étaient venus en disant non, nous, finalement, ça ne nous intéresse plus. On va attendre de voir les conséquences de la crise immobilière. Et puis, ils reviennent en 2018 ou 2019 avec un projet clé en main qui était le même que celui de 2008. Or, il s'avère que les contraintes de construction imposées par notre plan local d'urbanisme ne permettaient pas d'accueillir cette industrie. Donc, qu'à cela ne tienne, on fait une modification partielle sur cette zone-là du règlement du plan local d'urbanisme pour que ça leur convienne et qu'ils puissent s'installer sans rencontrer d'opposition au niveau de l'urbanisme.
Et puis, il y a un commissaire enquêteur qui arrive et qui écoute ce qui se passe.
Voilà, donc à la suite de ça, comme c'est une installation classée, une enquête publique est diligentée sur deux domaines. Le permis de construire, donc c'est-à-dire la partie urbanisme, et une autre sur ce qu'on appelle l'ICPE, l'étude environnementale du projet. Donc, l'enquête publique se précise. On est quand même là, en 2020, encore en période Covid. Et là, on voit effaré arriver plus de 550 contributions. Ce qui veut dire qu'il y a un réel engouement, un réel intérêt pour s'exprimer sur le sujet. Et là, la conclusion du commissaire enquêteur, et ce n'est le cas que dans 4% des enquêtes publiques, conclut un avis défavorable et sur l'autorisation d'exploiter et sur le permis de construire.
Donc là, il dit à monsieur le préfet, l'avis est défavorable.
L'avis est défavorable.
Donc le préfet l'écoute ?
Qu'à cela ne tienne, on nous dit mais non, mais finalement le commissaire enquêteur n'a qu'un avis consultatif et puis de toute façon, vu la tournure des événements, vous avez dû lui retourner le cerveau. Donc je n'en tiendrai pas compte et c'est un bon projet pour le département de l'Aisne et puis moi d'ici ce temps-là j'aurai obtenu ma mutation, ça ne sera plus mon problème.
Est-ce que c'est ce qui a motivé finalement le fait de vouloir devenir maire de la commune pour pouvoir vous opposer à ce projet ?
Pas du tout. Pas du tout parce que quand je brigue la mandature en 2020, le mandat de 6 années, là, moi j'étais plus sur un projet de développement, d'aménagement de ma commune. J'y réside depuis 55 ans. Donc l'idée était de développer, de promouvoir ma commune, d'égayer l'endroit où je vis, d'apporter du service et puis d'apporter ma contribution et puis mes connaissances du terrain à ma commune. Le dossier Rocoul n'a jamais été au centre des préoccupations ni un sujet de campagne en 2020. Ce n'est qu'en découvrant l'enquête publique qui allait se réaliser en juillet 2020 lors de mon investiture que je découvre l'ampleur de la tâche et l'ampleur du projet. Donc là, avec tout le volet sanitaire, n'étant pas compétent, je prends des renseignements dans ma famille proche. Ma sœur qui est professeure de médecine depuis peu à l'Académie de médecine. Mon beau-frère dermatologue et la mère de mes enfants, pharmacien hospitalier. Donc là, des avis médicaux éclairés. Et là, on me dit attention, attention, produit dangereux. Il faut vraiment faire attention. Donc là, on étudie ça un petit peu plus près. On voit que pour beaucoup de composants, il est marqué... pas d'études possibles, on ne connaît pas l'impact, 200 composés au total, 200 composés chimiques. écrit en tout petit, hein, comme en bas des contrats d'assurance. Donc on se dit, sachant que le diable se cache dans les détails, on va étudier ça de près, puis on va se faire conseiller par des experts.
Si, on se réunit là dans 10 minutes sur le terrain de Rocoul.
À tout de suite.
C'est quoi tous ces
gendarmes? C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, je vous dis, moi, ce matin, j'ai les gendarmes chez moi qui viennent me cuisiner. Je dis la vérité, j'en serai plus de 100. Ils me disent, nous, cet après-midi, on n'est pas là, on décore l'arbre de Noël, il y aura une simple petite patrouille. Ils ont sorti une escouade. Et l'autre, il est, là, je le vois, il est dans la voiture, il est là, devant mes enfants, il est venu mentir.
On n'a pas prévu de passer l'après-midi ici.
Ah, dommage. Regarde, il vient faire des
quelques mots pour redire le thème un petit peu, pourquoi on est ici.
Ah, c'est le moment de faire un doigt d'honneur, il y a le mec des RG qui nous photographie.
Vous entendez bien ? Rocoul, fait croire à nos élus qu'il n'y a que de la vapeur d'eau qui sortira des cheminées. Rocoul leur fait croire aussi que ces usines sont bonnes pour le climat. Contrairement à nos élus, nous ne sommes pas dupes. Favoriser une industrie déjà dépassée, polluante, grande consommatrice d'énergie et fortement émettrice de CO2 est un acte climaticide.
Comment vous avez connaissance, vous, de ce qui se passe, Thomas, là-bas à Courmel? L'information, elle vous arrive comment?
Elle m'arrive par le livre qui a été écrit par Arnaud Zvrek et David Brégère, qui raconte cette histoire-là, qui raconte tout le début de cette aventure, et où je me dis, bah, en fait, voilà, y a des personnages, il y a une histoire, est-ce qu'on ne pourrait pas raconter la suite? Et c'est à ce moment-là où je prends contact avec Arnaud, et je crois que le premier jour où j'arrive à Courmel, c'est le jour de la manifestation, de la toute première manifestation que je vais filmer. J'y suis un peu en repérage, et là il se passe quelque chose d'assez étrange. C'est que je vois Arnaud pour la première fois depuis environ 10 secondes, je lui demande si je peux lui mettre un micro, il me dit oui, aucun problème, donc je mets un micro. Et je commence à filmer, et là il se fait interpeller vraiment au bout de quelques secondes par une personne âgée qui lui demande qu'est-ce qui se passe, qui sont tous ces anarchistes qui sont autour de lui, c'est pas possible qu'elle se voit pas manifester autour de ces gens-là, ça correspond pas à ses valeurs politiques. Et puis une minute après, c'est un anarchiste qui vient voir Arnaud et qui dit alors ça se passe bien ici. Et en fait je me rends compte que la mobilisation qu'il y a en face de nous, elle va de la droite, très traditionnelle, catholique, soissonnaise, bourgeoise, jusqu'à l'anarchisme le plus radical, côté laine libertaire. Donc voilà, on se retrouve vraiment face à une population très 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 hétérodoxe, très hétéroclite. Et je me dis, ah, c'est incroyable quand même cette manifestation qui arrive à rassembler de tels personnages différents. Et puis l'accessibilité d'Arnaud fait que je me dis, bon bah voilà, a priori je suis le bienvenu, je peux filmer, il y a une histoire à raconter. Et c'est comme ça que ça commence.
Et vous racontez l'histoire sans poser de questions. Il y a le choix de filmer les gens, de ne pas forcément les questionner, ou s'ils sont questionnés, tout disparaît au montage.
Oui, bah justement, sur la question est-ce que je suis journaliste ou réalisateur de documentaire, je pense que c'est le film le moins journalistique que j'ai pu faire, dans le sens où mon objectif n'était pas de démontrer si oui ou non il fallait que Rocoul s'installe, si oui ou non la laine de roche est un bon produit, si oui ou non Arnaud Zvrek a raison ou tort. C'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était de montrer à travers les yeux d'Arnaud et à travers les gens qui l'entourent, comment une mobilisation citoyenne naît, comment elle grandit et qu'est-ce qui l'alimente. Et ce qui m'a frappé, ce qui l'alimente beaucoup dans ces contextes-là, c'est souvent un sentiment de mépris. Et c'est ça que je voulais montrer in fine. C'est-à-dire que et pour ça, j'avais pas besoin de poser de questions. Tous voyaient à l'image les discussions qu'ils pouvaient avoir entre eux, les interrogations qui se posent, les réactions vis-à-vis de la préfecture, vis-à-vis de la communauté d'agglo, les réactions du maire de Soissons. Tout ça montre que quand on s'oppose à un projet qui est voulu par des instances qui viennent soit régionalement, soit nationalement, c'est très compliqué. c'est très compliqué. Souvent, on se sent un peu seul et on a besoin. Et en fait, et voilà, et ce sentiment de mépris et de déclassement que peuvent vivre les gens sur place alimente la contestation. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait de montrer.
Et ce qui donne une tension dramatique au documentaire.
La tension, elle s'est faite toute seule parce qu'en fait, c'était un ascenseur émotionnel permanent. Chaque décision qui tombait pouvait... c'était vraiment pile ou face. C'était un coup, c'était pour, un coup, c'était contre. C'est quand même des sujets qui sont très techniques, très compliqués, avec beaucoup de procédures. Il va y avoir du tribunal administratif, il va y avoir des appels, il va y avoir le recours du Conseil d'État. Et donc, chaque décision peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et forcément, en filmant un an, un peu plus que ça même, on se retrouve à filmer des moments de joie, des moments d'espoir, et puis au contraire, des moments de désillusion totale où on a l'impression que tout est perdu. Et puis le mois suivant, des décisions qui retombent et qui refont basculer la vapeur. Donc voilà, ça a été le fil rouge du film. C'était l'histoire qui se déroulait sous mes yeux, donc toute la tension qu'il pouvait y avoir grâce à tous ces retournements de situation.
Thomas Lafarge, auteur du documentaire « Monsieur le maire contre la multinationale » et Arnaud Zwreck, maire de Courmel, commune à côté de Soissons, opposé à l'implantation d'une usine de fabrication de laine de roche de la multinationale Rockwool sur son territoire.
L'heure des comptes. Suffrage exprimé 423. Donc on a 3 nuls, 11 pour et 409 contre. Voilà.
Alors quand le préfet n'écoute pas finalement l'avis du commissaire enquêteur, vous dites on va se défendre, vous organisez à ce moment-là une votation citoyenne dans la commune, pour ou contre, vous demandez l'avis à vos administrés.
Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on en débat en conseil municipal parce qu'on est obligé de se faire défendre par une avocate parce qu'on va refuser le permis de construire. À partir de là, il y a des honoraires. Donc le principe de base, c'est de, quand on n'est pas compétent, on s'entoure de gens compétents, donc on s'entoure d'une avocate très compétente. Voilà, on a des honoraires d'avocats qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont tarifés et qui sont corrélés à sa prestation. Et donc après, on commence à monter dans les montants. Et là, je me dis, c'est vraiment un vrai sujet local. Et je me dis, je n'ai pas moi le monopole de la connaissance, donc je veux avoir recours, je veux, pour être sûr de ne pas être dans l'erreur, qu'on soit quelques-uns à décider parce qu'on est aveuglé par ce combat-là, recueillir l'avis de la population. Donc à partir de là, je demande un référendum. Référendum qui m'est refusé par la préfecture en disant il est complètement illégal, il n'a aucune valeur. Je dis, puisque je ne peux pas faire de référendum, je vais faire ce qu'on appelle une consultation citoyenne. Consultation citoyenne qui a lieu au beau jour en juin 2022, je crois. Et là, j'arrive à réunir un tiers du corps électoral et les gens s'expriment durant toute une journée. Et le score est sans appel, même les pires dictateurs de la planète en rêve, 96,8% des gens opposés à l'arrivée de l'usine sur la commune. J'invite tous mes homologues, maires des communes environnantes et impactées, parce que là encore, on nous dit que la pollution va se disperser, mais disparition ne veut pas dire... diffusion ne veut pas dire... Enfin, dispersion ne veut pas dire disparition. Donc contrairement au nuage de Tchernobyl, là, il ne s'arrêtera pas, il ne connaîtra pas la limite du panneau Courmel. Il risque de se diffuser plus loin. Donc moi, je pense que mes homologues des villages environnants doivent faire la même chose. Bien évidemment, rien ne se fait. Mais à Courmel, le score est sans appel. Ce qui plaît énormément à la population en disant, nous voilà au moins une fois où on a l'impression d'avoir un vote utile, un vote qui sert à quelque chose sur un sujet contemporain, sur un sujet économique et de société. On a adoré être consulté. Voilà. Et donc, à partir de là, ça me donne une légitimité pour poursuivre dans les procédures. Il faut quand même rappeler que depuis le départ, je n'ai jamais attaqué Rockwool, je n'ai fait que défendre par rapport aux attaques de Rockwool sur mon refus de permis de construire. Et puis là, on engage les procédures. Voilà.
Vous êtes rejoint dans la lutte par des mouvements associatifs, syndicaux, divers et variés, politiques, de toutes les couleurs. C'est des professionnels de la mobilisation à ce moment-là. c'est ceux dont on a besoin parce qu'ils ont une technicité dans la manifestation et dans la médiatisation.
De toutes les manifestations qu'on a pu organiser depuis 6 ans de combat, je n'ai eu de cesse de clamer que le combat était transpartisan. Pour une bonne et simple raison, et c'est d'ailleurs à la suite de cette première intervention que Thomas avait décidé de faire le reportage, je dis aux gens, vous savez, que vous soyez de droite, du centre, de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite, l'air qu'on va respirer sera le même pour tout le monde. Donc est-ce que le temps d'une après-midi ou le temps d'un combat, on ne peut pas faire abstraction de nos différences, de tout ce qui nous divise au quotidien et d'aller dans la même direction? Et là, mon message reçoit un écho et on arrive à faire un combat transpartisan. En faisant abstraction de ça, parce que l'heure est grave pour les soissonnés. Avant d'être de droite, de gauche, écolo, facho, tout ce qu'on veut, ou gaucho, on est des citoyens du bassin soissonnais et on est tous parents, on a tous des enfants et on est tous préoccupés par ceux qui arrivent. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une magie dans tout ça, c'est que quand l'heure est grave, on arrive à fédérer.
Vous avez donc recours à une avocate qui va vous expliquer le droit, les recours possibles pour rester dans le cadre légal. Néanmoins, on vous entend dire également, s'il faut désobéir à un moment, s'il faut rentrer dans une forme d'illégalité, il faudra qu'on y aille.
Moi, j'ai toujours eu pour principe de jouer avec les armes de mes adversaires. Face à des méthodes de voyous, il y aura des réactions de voyous. C'est œil pour œil, dent pour dent. On ne peut pas tendre l'autre joue. Nous, dans ce village de 1800 habitants que je vous décrivais, on a tous grandi ensemble. On a tous eu un projet de vie sur ce village-là, parce que c'est une partie de nous-mêmes. On fait abstraction du désert médical, du désert intellectuel, du désert social, du désert économique. Mais par contre, on a quelque chose qui nous tient très à cœur, c'est notre qualité de vie. Et là, sous prétexte d'un projet irréel, on va nous confisquer le peu qui nous reste. Donc nous, on joue notre vie sur ce combat-là. Donc on ne peut pas dire aux gens, déménagez, on va se battre. Ça va être une forteresse, l'Aisne, guerre de tranchées, chemin des dames. Voilà ce que c'est l'Aisne. Donc à partir de là, oui, et il faut jouer avec les armes de ses adversaires. On joue le jeu de la démocratie. Face à nous, on a des gens qui contournent la démocratie avec beaucoup de mépris pour la base. Et ça, ce message-là, on ne veut plus l'entendre. Donc oui, radicalisation de la parole, radicalisation de la pensée face à la violence du mépris des autorités. Depuis Paris, on est des petits animaux qu'on agite. C'est pas du tout ça, l'Aisne. Même si l'Aisne n'a pas tous les atouts en main, l'Aisne, terre de révolte, terre de rébellion, terre de résistance. Donc à partir de là, voilà. Il y a une forme peut-être de désobéissance par rapport à des gens qui contournent la loi et qui font eux aussi une forme de désobéissance. À partir de là, toutes nos manifestations se font sans violence. On associe intergénérationnel, on n'a jamais déploré un débordement, mais on sent une situation se radicaliser face au mépris qui est d'une rare violence.
Et vous êtes même menaçant, par au téléphone, avec les représentants des ministères, de l'État ou de la préfecture.
Voilà, moi je les alerte. J'ai aussi le rôle de relayer ce qui se passe. Alors, bien sûr, on m'écoute avec beaucoup de mépris et de raillerie, de cynisme, en disant « mais jusqu'à présent, mais tout va bien à Soissons, il n'y a pas d'état de siège, il n'y a rien du tout ». Moi, je suis en contact permanent avec la base. La base, c'est mes amis de lutte, c'est le terrain. Eux sont dans des bureaux à Paris, on leur fait des rapports circonstanciés sur tel ou tel événement. Alors, il y a ce qu'on voit, il y a ce qui se dit, et puis il y a ce qui se dit à visage masqué et dans des endroits où on ne peut pas nous épier. Et là, moi, je sens la colère monter, l'exaspération, le ras-le-bol et la violence verbale qui va déboucher sur de la violence physique. C'est obligatoire. Même si la cause est perdue, on ne pourra pas dire qu'on aura rendu les armes sans se battre. C'est ça le plus important. Et c'est aussi le modèle pour nos enfants.
Et le but, c'était de montrer qu'on était encore là, quoi.
Non, parce qu'il y a eu quelques colos qui sont venus sous la pluie. Que les patrons de Rockwool, ils vont se dire « Oh là là, non, ça fait trop peur, on n'y va pas enfin, !» À un moment donné, désolé, si on veut empêcher l'usine de s'installer, c'est pas en faisant des trucs festifs.
Nous, on n'a pas peur d'aller loin dans l'engagement. Tu vois, c'est le fait qu'on soit anarchiste, etc. On a déjà l'État contre nous, on a tout le monde. Il y a 9 personnes sur 10 qui pensent que l'anarchie, c'est le bordel, la violence. Donc on est habitué à ce que les gens, au début, ne nous aiment pas.
Rapport au drapeau noir, c'est ça qui... Je pense que les gens, tout de suite, ben, les Black Blocs, ils vont être pleins.
Oui, c'est sûr. Ouais, il faut quand même qu'on soit prêt.
Bon, alors du coup, on pose la question de radicaliser le mouvement.
Comment leur faire perdre du fric? De toute façon, il y a que ça qui comprenne. Mmh. Donc le but du jeu, c'est qu'ils perdent beaucoup de fric, et plus on perd de fric, plus... Enfin, voilà, si ça devient plus rentable, il y a que ça qui se dit. Il y a que la rentabilité qui comprenne. Donc le but du jeu, c'est qu'ils perdent plus d'argent qu'ils en gagnent.
Dans ce documentaire, Thomas, vous donnez la parole à tout le monde, y compris la Fédération anarchiste. On voit également les soulèvements de la Terre. On se pose la question de ne pas, à ce moment-là, être manipulé par ces organismes qui pourraient très bien profiter de l'occasion pour une quelconque propagande. Comprenez ce que je veux dire ?
Oui, je peux très bien imaginer. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ce documentaire, l'objectif n'était pas... notamment parce que Rocoul a refusé de participer, malgré plusieurs rencontres avec l'entreprise, avec la direction du marketing de l'entreprise, qui était plutôt favorable au fait de participer, mais la décision ne leur revenait pas, elle revenait au siège qui est au Danemark. Donc le refus de participer, la préfecture n'a pas répondu non plus. Donc j'étais un peu dans une idée de me dire, bon, alors dans ce cas, il faut que je prenne un parti pris un peu radical, qui est de rester du côté des gens qui se mobilisent contre. Et parmi eux, arriver au fur et à mesure, effectivement, une confédération anarchiste, les soulèvements de la Terre, mais qui, très honnêtement, n'avait pas vraiment... n'avait pas besoin de moi, et j'étais jamais perçu comme quelqu'un qui pouvait être utile à leur combat. Ils étaient là, si j'avais pas été là, ils auraient été là aussi. Ils auraient dit à peu près la même chose, donc peut-être même de façon plus virulente. Peut-être le fait de savoir filmer fait que il se restreignent un petit peu, mais je suis même pas sûr. J'ai pas eu le sentiment à aucun moment que ma caméra a changé l'état d'esprit ou le discours des gens que je filmais. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que forcément, quand on a une caméra dans les mains, on se rend bien compte qu'on a un pouvoir. Mais vu que j'ai passé du temps là-bas de façon continue, que je venais globalement souvent, enfin même tout le temps sans prévenir, que j'allumais ma caméra de façon assez anarchique et que je l'éteignais de façon assez anarchique, il n'y avait pas de moment où je disais « attention, maintenant on va se mettre à filmer, donc préparez-vous ». C'était toujours très, très discret, je me mettais dans un coin, je me faisais oublier, le fait de ne pas poser de questions aide aussi, le fait de ne pas avoir d'ingénieur du son aide aussi, je suis tout seul, j'avais un petit matériel, donc ça rendait ma présence assez discrète et finalement pas très utile d'un point de vue de communication pour quelqu'un qui a envie de faire passer un message, surtout quand je lui expliquais que ça allait être diffusé dans un an et demi après la décision. Enfin, autant dire que ça avait peu d'impact sur ce qui pouvait être fait, comment ce combat allait être, l'issue du combat en tout cas. Voilà. Donc non, je n'ai jamais eu le sentiment d'être manipulé. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pour revenir sur l'idée de la professionnalisation, ce que j'ai pu observer moi en les voyant arriver, c'est effectivement, ce sont des professionnels de la mobilisation. Ce n'est pas des professionnels des médias. C'est-à-dire que les médias, ils ne sont pas forcément les plus efficaces. Arnaud est bien, bien meilleur pour parler à France 3, pour parler aux journaux, pour parler même à CNews était là. Mais par contre, pour ce qui est de l'organisation très, très pratico-pratique, le matériel, la cantine, les bâches, qui va faire à manger, tout ça, il y a une vraie structure et qui en fait passe d'un projet de contestation à un autre. C'est les mêmes personnes qu'on va retrouver après à Sainte-Soline, c'est les mêmes personnes qu'on va retrouver à Notre-Dame-des-Landes. Et donc en fait, c'est assez intéressant de voir cette espèce de microcosme, de réseau qui passe d'une région à l'autre, qui se connaît et qui est toujours là pour aider en cas de besoin de militants. Voilà.
Vous maintenez la mobilisation de vos administrés en disant on lâche pas le morceau, on continue à se faire entendre, on organise régulièrement des événements, on continue à afficher notre opposition et puis on suit notre avocate qui vous amène à la cour d'appel administrative de Douai.
C'est ça. Donc en première instance au tribunal d'Amiens, bien évidemment on est débouté. On m'impose de signer le permis de construire à l'entreprise Rocoul. On fait appel de la décision. Et là, quand on arrive à Douai, donc dans cette belle ville de Douai, là, aux stupéfactions, on gagne en appel. Et moi, je mets un point d'honneur à célébrer cette victoire-là, parce que au-delà de la victoire sur l'ogre, c'est aussi la victoire d'un homme, c'est-à-dire de moi, parce que Rocoul avait cyniquement avancé comme argument principal que je servais mes intérêts, que je ne voulais pas du projet parce que j'étais riverain du projet. Donc en fait, ça salissait mon honneur, et là, la cour de Douai lave mon honneur. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça crée même une jurisprudence, c'est-à-dire qu'un élu peut très bien s'opposer à un projet, même s'il est propriétaire à côté, pour des motifs valables. Tous les motifs qui avaient été soulevés étaient valables, donc l'impression que mon honneur est lavé. Voilà, donc là, c'est la grande victoire. Donc, tant attendu, qui vient de nulle part, parce que c'est vrai que dans ce combat-là, on passe d'une émotion à une autre, on passe du rire aux larmes en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines.
Il y a de la frustration pour le journaliste de ne pas avoir le droit de filmer ce qui se dit au tribunal.
Oui, beaucoup, d'autant que j'avais un peu filmé et que, en fait, j'avais absolument pas le droit et certainement pas de diffuser. Donc oui, bien sûr, c'était frustrant. Après, ça reste quand même un tribunal administratif, une cour d'appel. C'est très technique. Il n'y a pas d'envolée lyrique, on n'est pas sur les assises avec Dupond-Moretti qui prend la parole et qui s'enflamme.
Oui, mais ça peut donner également le penchant entre la mobilisation citoyenne très populaire, un peu popote, et puis ce côté très formel du tribunal. Deux salles, deux ambiances. Hein.
Ah oui, c'est très différent, effectivement. Et c'est vrai que, pour en revenir à... Est-ce que ça change est-ce que ma caméra pouvait changer quelque chose à l'issue du tribunal? Quand on est à la cour d'appel, on se rend bien compte que c'est une affaire très sérieuse, qui est prise en considération de façon très sérieuse par la justice, que les points adoptés sont extrêmement techniques, que ça ne va pas être sur de l'émotion que la décision va être prise. Ce n'est pas parce qu'il y a 1500 personnes dans la rue que le tribunal a décidé de refuser l'autorisation à Rocoul. Ils l'ont fait parce qu'il y avait des arguments techniques, administratifs, juridiques qui étaient recevables. La mobilisation citoyenne met une pression pour le politique, mais pour la justice, assez peu. Donc finalement, ce qu'on observe quand on filme ce combat, c'est que effectivement, ça se joue sur deux tableaux différents. D'un côté, il y a la mobilisation et le politique, donc l'influence du maire de Soissons, du patron de l'agglo, du maire de Courmel, qui vont s'affronter sur ces questions-là dans les médias, etc. Et puis à côté, en parallèle, dans son sillon, un peu indépendamment, la justice qui fait son travail, alors qui met parfois un peu beaucoup de temps à prendre des décisions, mais qui, in fine, rend des décisions qui en fait, font juge de paix. Et c'est un peu ça, la morale de cette histoire. C'est que la violence, elle aurait pu arriver. Mais finalement, ce qui a fait qu'elle n'arrive pas, c'est qu'il y a une décision souveraine qui a été prise par un tribunal qui permet d'apaiser tout le monde. Et elle est prise sur des bons arguments. Ça veut dire que la manifestation qui était là au départ était basée quand même sur des idées qui étaient justes. Et pas uniquement, c'était pas une folie populaire.
Thomas Lafarge, auteur du documentaire « Monsieur le maire contre la multinationale » et Arnaud Zwreck, maire de Courmel, commune à côté de Soissons, opposé à l'implantation d'une usine de fabrication de laine de roche de la multinationale Rocoul sur son territoire.
Donc là, forcément, après, on se retrouve dans des mouvances où il y a des gens qui mettent le réveil le matin. Leur but, Dieu les a fait, c'est pour être en lutte. Donc ils sont de toutes les luttes. C'est peut-être des gens qui auront la détermination et la volonté suffisante pour aller monter un siège sur le terrain, pour faire une intrusion et puis pour faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Je veux dire, les exemples sont nombreux, hein. Barrage de Sivins, les méga-bassines, enfin, Notre-Dame-des-Landes, enfin voilà, des exemples, il y en a. Hein.
Et néanmoins, le combat continue parce que la société décide d'aller saisir, là, cette fois-ci, le Conseil d'État.
Voilà, et exactement. Donc, on est dans le cadre du juridique, hein, toujours. Donc, nous, toujours défendus par la même avocate. Alors, si ce n'est que là, on est obligé d'avoir recours à un avocat spécialisé qui peut plaider devant le Conseil d'État. Donc, les mêmes arguments, la même histoire qui est rejugée à nouveau. Donc au cours de la procédure, on entend parler que Rocoul a fait des études d'autres sites, il y aurait 19 autres sites potentiels, mais ça charne là sur le site de Soissons comme le site de la dernière chance. Donc une incohérence entre les propos et les actes. Donc aujourd'hui, on est suspendu à une énième décision de justice. La mobilisation reste totale. 6 années se sont écoulées. Les rangs n'ont cessé de grandir. On a diffusé le combat partout où on pouvait le diffuser. Je dis toujours, au départ, on a commencé, on était une petite section, puis on est devenu une compagnie, puis un régiment. Aujourd'hui, on est un bataillon. Demain, on sera une armée. Parce qu'aujourd'hui, notre cause est juste et l'histoire va nous juger et nous donnera raison. On est aujourd'hui les précurseurs. On est tous pour l'emploi. Je suis père de 5 enfants. Voilà, je veux que mes enfants aient du travail. Mais on veut des emplois respirables, comme tout à chacun. Et estimant être dans notre bon droit et plaidant notre cause, on ne cesse tous les jours de voir des gens gonfler les rangs de la contestation parce que la cause est juste. Parce que la cause est juste.
Le documentaire que vous avez réalisé, c'est une pièce supplémentaire dans l'analyse. Vous pensez que ça peut avoir son importance auprès des différents juristes qui doivent se prononcer, au moins pour mesurer peut-être l'épuisement, l'incompréhension et le sentiment d'injustice ressenti par les habitants de la commune ?
Alors, je pense que ce film n'a pas d'intérêt d'un point de vue juridique. L'objectif, c'est pas que les juges regardent le film et se disent « Ah, vous voyez quand même... » Non, non. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que c'est des films qui sont utiles pour permettre aux politiques de comprendre qui ils ont en face d'eux. Quand ils ont un projet, parce que ce qui s'est passé à Recoul, en fait, se passe en France absolument partout. Il y a des centaines et des centaines de cas d'obstruction comme ça sur des projets d'éoliennes, de tout ce que vous voulez. Et il y a une incompréhension entre le politique qui cherche à imposer une décision et la population qui veut avoir son mot à dire. Et je pense que c'est le genre de film qui est important à voir pour des préfets. Pour des présidents d'agglo, pour des gens comme ça, qui vont essayer de comprendre et se mettre à la place de la personne qu'ils ont en face d'elle. Et c'est vrai que là, il y a un moment, on interview le maire de Soissons qui explique que la communication, c'est répéter, répéter, répéter. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà, la règle des 3 R et des 5 C. Et en fait, quand il dit ça, je le crois très sincère. Je pense qu'il est convaincu qu'il suffit de répéter, répéter, répéter pour que quelque chose de non acceptable devienne acceptable. Mais je pense qu'il fait une erreur fondamentale. Une erreur fondamentale de comment les êtres humains fonctionnent en société, de comment ils interagissent les uns avec les autres. Et donc à partir de là, ce genre de film peut aider à apporter un peu de compréhension sur comment naît une contestation, comment elle s'alimente, comment elle grossit et comment elle peut finir par gagner.
Ce film, il réconcilie avec la démocratie locale ou alors... Il amène plutôt à douter de ce que peut faire un élu de base très proche de ses habitants.
Alors pour rebondir sur ce que disait Thomas et les propos du président du Grand Soissons qui dit c'est répéter, 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 il n'a pas de chance parce que nous à Courmelles c'est résister, résister, résister. Et en fait là où je pense qu'il est dans l'erreur, mais ça devient un vieux monsieur âgé de plus de 70 ans qui je pense commence à avoir des troubles cognitifs et des fonctions supérieures, avéré. Ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est que lui, il est dans un... on a changé de paradigme. C'est-à-dire qu'on est entré dans le 21e siècle. Et lui est resté bloqué dans le 20e siècle. C'est un monsieur qui a connu l'école séparée des garçons et des filles. Ce qui semble lunaire. Donc aujourd'hui, lui, il est encore dans un vieux modèle archaïque de production industrielle. Et ne peut pas comprendre. Donc il ne reviendra pas sur sa copie. Mais moi, je reste persuadé que le grand... puni dans l'histoire, c'est le bassin d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, un politique à la tête d'une communauté de 60 000 habitants, c'est quelqu'un qui doit aussi, des fois, se remettre en question et dire, puisque le projet ne fait pas l'unanimité, il faut abandonner le projet et qu'on ait des projets fédérateurs. Comme nous, on a un combat fédérateur. On a réussi à rassembler de l'extrême droite à l'extrême gauche. Aujourd'hui, je le défie. En fait, il a un électorat de niche, mais il n'arrive pas à élargir son électorat parce qu'il n'a pas la capacité d'adaptation et d'écoute surtout. En fait, il faut mettre le territoire en avant et ne pas se cacher derrière une institution telle que l'ARS. Il faut s'informer. Moi, en conseil communautaire, quand j'alerte sur le fait que l'usine va être en amont d'une cuvette dans laquelle va le sens du vent dominant, il va jusqu'à me contester le sens du vent dominant, c'est-à-dire remettre en question des fondamentaux physiques. Donc là, si vous voulez, c'en est risible. Et toujours là avec un petit air cynique, sûr de lui, trop sûr de lui. Mais malheureusement, au détriment d'un bassin de 60 000 habitants. Voilà. Et c'est ça, si vous voulez, c'est aujourd'hui d'avoir à la tête de ces EPCI, comme on dit, enfin de ces communautés de communes ou communautés d'agglomération, des gens qui savent se projeter, qui savent être à l'écoute, et non pas des politiques, parce qu'un politique n'est pas forcément un directeur d'entreprise, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a la notion d'économie et de bien-être. En fait, il faut être multicasquette, il faut savoir être à l'écoute. Et c'est pas donné à tout le monde. Et là, je vois qu'on se heurte un mur. C'est un diktat avec tous les dommages collatéraux que ça va générer. Mais on est petit à Courmel, mais on est résilient. Le roseau plie, mais ne ronge jamais.
C'est pour que vous puissiez mener le combat jusqu'au bout que vous retournez et que vous vous présentez pour un nouveau mandat.
J'ai fait du sport collectif. Hein. On est à la mi-temps, le match n'est pas terminé. Il n'est pas gagné, il n'est pas perdu. Mais quoi qu'il en soit, on va aller jusqu'au coup de sifflet final, dans un sens ou dans l'autre. Mais j'ai obligation et morale et humaine de mener le combat à son terme. Le combat n'étant pas fini, je n'abandonne pas le combat en cours de route. Je ne pourrai pas me regarder, et c'est le modèle que je renvoie à mes enfants, et je me dois d'être irréprochable, de leur expliquer qu'il faut aller au bout des choses, au fond des choses, et surtout ne pas déroger ses convictions.
Sur cet espace qui a fait l'objet déjà de quelques aménagements, de terrassements et autres, vous avez d'autres projets si c'est totalement fini pour cette usine-là?
Ah, mais moi, demain, si vous voulez, le terrain, alors parce qu'il faut quand même préciser qu'à l'époque, le terrain qui avait été évalué à 23 euros par le service des domaines a été vendu 16,80 €. Aujourd'hui, le prix du terrain sur la même zone, le mètre carré de l'autre côté de la route, il se négocie 32 euros. Bon, moi, si vous voulez, aujourd'hui, alors c'est de l'arithmétique de base, hein, c'est-à-dire que je pense que même le président du Grand Soissons Agglomération, qui a peut-être qu'un vilain certificat d'études, pourrait comprendre. C'est simple, recoule ses 130 emplois sur 40 hectares. Un gros industriel de l'agroalimentaire français, c'est 350 emplois sur 20 hectares. Donc une simple règle de 3, je pense que c'est à sa portée. Il saurait faire le calcul. Donc à partir de là, oui, des projets. J'ai encore rencontré un investisseur. On nous parle aussi, alors là c'est un projet qui des fois est clivant. Il faut, avant d'aller plus en avant, s'entourer de spécialistes. Quand on ne sait pas faire, il faut s'entourer. Un projet de data center, plus de 1000 emplois. Voilà, on est à trois quarts d'heure de Paris. Moi je dis Soissons, la belle endormie. Donc des projets, de l'optimisme, des projets fédérateurs, des projets économiquement viables, des projets plus dans la philosophie de Soissons qui a toujours été une région agricole et où on a su allier l'industrie agroalimentaire, l'industrie et l'agriculture. On a des fleurons, on a Tereos, on a Vico, le roi de la pomme de terre, on en a d'autres, on a Roquette, on a tout ça. Donc on a toujours su créer des emplois en associant agriculture et industrie. Le groupe dont je vous parle, je ne vais pas citer le nom parce que ça n'a pas d'intérêt ici, ça serait vraiment l'exemple frappant. Du circuit court, des gens peu qualifiés, exactement ce qu'on a. Un projet tourné vers le futur et un projet durable.
Dernière question pour Thomas. Il y aura une suite, finalement, parce que comme l'histoire n'est pas terminée, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura de suite parce que ça me paraît... je pense que ça rebouclerait de la même façon. Enfin, c'est des processus qui évoluent un peu toujours de la même façon avec des appels, des premières instances qui reviennent et encore des appels. Donc je ne pense pas. Mais juste pour rebondir sur l'idée de est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour la démocratie locale, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Pour l'instant, ils ont réussi à fédérer contre un projet. C'est toujours beaucoup plus facile de fédérer contre quelque chose que de fédérer pour quelque chose. Donc si Arnaud et son équipe arrivent à récupérer le terrain et à fédérer le même enthousiasme pour quelque chose de positif, je pense que tout le monde y aura gagné. Et c'est un peu le sens, je pense, de sa démarche. Mais c'est là-dessus que finalement sera jugé Courmel et les Courmellois.
Thomas Lafarge, auteur du documentaire « Monsieur le maire contre la multinationale » et Arnaud Zvrek, maire de Courmel, à l'occasion d'un ciné-débat organisé par l'association Festiplanète à Douai. Interview
Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensée.